Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Paris est peuplé de bâtiments, d'édifices magnifiques qui, tout au long des siècles, ont su résister, se sont adaptés, ont fait preuve de patience par rapport à la main de l'homme. Certains sont restés un petit peu en berne, d'autres ont vu des constructions fulgurantes et puis d'autres sont restés un petit peu comme ça, en plan. Mais quand l'homme a décidé de s'en occuper, cela devient des édifices, des monuments magnifiques qui, au travers du temps, des siècles, nous permettent aujourd'hui de pouvoir les admirer, les visiter. Certaines deviennent des palais, des musées. Pour nous parler justement de ce palais d'Orsay, de ce musée d'Orsay aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir une historienne de l'architecture pour son livre donc édité au passé composé. Bonjour Hélène Lewandowski.
Bonjour Claudine Bugat.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes, pour délivrez-vous, pour votre ouvrage sur le palais d'Orsay aux éditions Passé Composé. Alors d'abord on va un petit peu parler de vous.
Si vous voulez.
Qui êtes-vous?
Mais comme vous l'avez dit, je suis historienne de l'architecture.
Oui.
Et donc, je me passionne pour Paris, son architecture, et plus particulièrement au 19e siècle.
Oui. Tout à fait. Alors, on s'aperçoit que ce palais d'Orsay, aujourd'hui musée d'Orsay, fascinant, bien évidemment, que l'on peut visiter. Et qui a dans son antre moult peintures, sculptures et autres, et c'est un bâtiment assez fascinant, a eu un destin, une histoire assez intéressante, je dirais. Moi, j'ai trouvé un peu malmené, un peu chaotique, mais bon, on pardonne à la main de l'homme parce que les événements ne sont pas toujours faciles à gérer. Donc, tout commence en 1808, sous le Premier Empire, sous Napoléon Ier, qui veut un édifice pour son ministère des Relations extérieures.
Exactement, comme vous l'avez dit, c'est une histoire très chaotique, l'histoire de ce palais d'Orsay,
oui.
Qui commence effectivement sous Napoléon Ier et qui va traverser tout le siècle.
Oui.
Et là où vous avez raison sur le fait qu'il est malmené par les soubresauts de l'histoire, si on veut résumer rapidement, en fait il va mettre 30 ans pour se construire, va vivre 30 ans,
oui.
Et va rester 27 ans en ruine après avoir été incendié par les communards.
Oui.
Donc vous voyez bien effectivement que tous les événements vont venir le chahuter constamment. Et donc Napoléon Ier rêve de faire de Paris la plus belle capitale de l'Europe. Et donc au moment où il a que des conquêtes et que des réussites, il espère bien faire un monument sur mesure. C'est la première fois qu'on y pense, puisqu'avant tous les ministères s'étaient installés en fait dans les hôtels aristocratiques, essentiellement dans le 7e arrondissement, dans l'arrondissement où il y avait beaucoup d'hôtels particuliers. Et là, pour la première fois, il envisage de construire un bâtiment sur mesure pour accueillir les services, effectivement, de la diplomatie et en faire son ministère des Relations extérieures.
Mmh.
Et il y a un lieu pour ça qui est vraiment idéal. C'est sur les quais de la Seine, face au Palais des Tuileries,
oui.
Où lui-même s'est installé après le coup d'État du 18 Brumaire.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, il aurait sous les yeux, il verrait passer symboliquement tous les diplomates de son immense empire, qui est le plus grand empire de tous les temps,
mm-hmm.
Et qui a prolongé, enfin, poussé les limites et les frontières du pays très, très loin.
Mm. Alors, malheureusement, après la chute de ce premier empire, on s'aperçoit que le palais d'Orsay, ses murs ne font que quelques mètres, et va commencer, je dirais, une longue attente pour cet édifice.
Effectivement, en fait, il est malheureusement les budgets sont de plus en plus rares avec les dernières guerres napoléoniennes.
Oui.
Et donc, en fait, il est livré à la restauration, hein, le régime qui suit.
Oui, tout à fait.
Il est livré encore très peu avancé. Hein. Il y en a 1,20 m, 1,80 m de mur,
oui.
Mais pas beaucoup plus.
Mmh.
Et donc, la restauration, c'est-à-dire Louis XVIII puis Charles X, vont pas vraiment savoir quoi faire de ce bâtiment, même si les architectes de l'époque estiment que ça sera un des plus beaux monuments de Paris,
oui.
Et qu'il donnera à la postérité une image de ce siècle, de ce début de siècle. En fait, on ne sait pas trop quoi en faire et il y a plusieurs projets qui sont mis sur la table. Mais en attendant, il prend l'eau. Et son pauvre architecte, Lacornet, est obligé de prévoir de temps en temps des rafistolages pour essayer de le préserver, de préserver les fondations. Et il va passer comme ça quelques années encore en chantier sans qu'on sache quoi en faire.
Alors, passera par là également la monarchie, on le disait, la restauration, la commune, la monarchie de juillet également aussi. Et puis, allez-y, je vous écoute.
Oui, je vous en prie. La monarchie de juillet, elle va avoir un comportement très différent par rapport à l'architecture, c'est-à-dire que ils vont voter, c'est Adolphe Thiers qui parvient à obtenir ce crédit incroyable, ils vont faire voter un budget pour enfin terminer tous les bâtiments en cours, et il y en a beaucoup, à Paris, mais aussi dans toute la France. Et donc, en fait, avec cette loi, ils vont enfin pouvoir terminer le Palais d'Orsay. Et donc, c'est bien sous la monarchie de juillet qu'il est enfin achevé et qu'il va pouvoir accueillir la Cour des comptes et le Conseil d'État.
Tout à fait. Et 1898 va être un moment important pour ce bâtiment.
Alors, ça va être un moment très important puisque donc il a vécu pendant 30 ans comme le siège de Conseil d'État et de la Cour des comptes. Il est incendié par les communards en 1871. Et pendant 27 ans, il va rester en ruine sur les quais de la Seine face au jardin des Tuileries et du Louvre. On est en plein cœur de Paris, c'est
complètement
impressionnant. Et là, en 1898, ce qu'on n'a pas réussi à faire en fait en 27 ans va être décidé en 3 mois. C'est-à-dire que là, il y a bientôt l'exposition universelle de 1900 qui se profile à l'horizon. Et on se dit, ça serait quand même drôlement bien d'avoir une gare en plein centre de Paris. Et donc, en 1898, c'est la fin de ce pauvre bâtiment. Il est rasé. Et à la place, on construit effectivement la gare d'Orléans, qui va devenir, bien plus tard, bien sûr, le musée d'Orsay.
Le musée d'Orsay. Alors, on sait de par l'histoire que cette gare d'Orléans va avoir énormément d'importance.
Oui, c'est très important parce que, en fait, sous la monarchie de juillet, c'est à partir de là qu'on décide de construire des gares dans Paris. Et beaucoup de gens s'élèvent à l'idée qu'il y ait des gares à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a très peur du bruit, de la fumée, etc. Et donc, sous la monarchie de juillet, on décide de construire les gares à l'extérieur, là où il y a des terrains libres et loin surtout des immeubles et des habitations. Et puis on trouve quand même que, au fur et à mesure que la ville grossit et s'étend, ces gares qui sont à l'extérieur de Paris sont loin du centre. Et donc en fait, quand on décide de ramener la gare d'Austerlitz à l'intérieur de Paris et d'en faire la gare d'Orléans, on va avoir là tout un développement qui va se faire autour de cette gare et on va avoir ce qu'on appelle les trains de plaisir, c'est-à-dire tous ces trains qui vont qui viennent de la province sur Paris et qui repartent après sur la province un peu plus au nord et qui permettent effectivement à la province de se rapprocher de la capitale, aux touristes de venir se déverser dans la ville. Donc pour ça, effectivement, cette gare va avoir une grande importance, mais pas très longtemps, puisque très rapidement la traction électrique va permettre de traîner de plus en plus de wagons et donc les quais de la gare d'Orléans
ne sont pas adaptés
très rapidement, trop courts.
C'est ça.
Et donc en fait le train va retourner gare d'Austerlitz et cette pauvre gare va être abandonnée au début du XXe siècle.
Et puis ça va être maintenant, on le sait, un joyau de la culture en général, avec un grand C.
Oui. Effectivement, au XXe siècle, alors on a une chance, c'est que ce bâtiment a été sauvé, puisqu'en fait, au début du XXe siècle, il était question de le raser.
De le raser de nouveau.
Voilà, donc dès 1935, on ne sait plus quoi faire de cette gare dans laquelle il n'y a plus de train. Donc il y a des projets qui arrivent pour le transformer une fois en salle des sports. Après la guerre, fait que tous les projets se sont arrêtés. Et puis, dans les années 70, on se dit, on va transformer ça en hôtel, dans un grand hôtel luxueux qui aurait pu être très très haut, mais qui aurait été un bâtiment extrêmement moderne. Et heureusement, dans les années 70 quand même, on prend peur du fait qu'on est en train de détruire tout le patrimoine parisien. Et ces projets-là s'arrêtent. Et dès Pompidou, on décide qu'il faut le transformer en musée. Donc, dès 73, il est classé.
Oui.
Puis, Valéry Giscard d'Estaing décide d'y installer le 19e siècle.
Tout à fait.
Et c'est comme ça qu'après, on peut inaugurer effectivement un très beau musée qui recueille toutes les œuvres du 19e siècle.
Tout à fait. C'est un musée extraordinaire avec de magnifiques peintures. Et puis, le cadre même est somptueux, ne serait-ce que l'extérieur. Moi, je trouve que c'est un bâtiment élégant qui est très, très beau, avec une belle architecture.
Très élégant. Alors, il a évidemment pas fait l'unanimité quand il a été construit, puisqu'on a choisi un style très éclectique.
Oui, c'est vrai.
Mais l'architecte avait quand même une mission qui était de construire une gare qui aurait l'air de ne pas être une gare. C'est-à-dire qu'on voulait quand même préserver la beauté du quai et puis la beauté de l'arrondissement et du quartier.
Ouais.
Et donc, on a vraiment demandé à l'architecte de faire très attention et de cacher, en fait, la gare derrière un écrin en pierre pour que ça puisse s'harmoniser non seulement avec le Louvre qui était en face, mais aussi le petit hôtel de Salm qui accueille le palais de la Légion d'honneur aujourd'hui. Et qui, en fait, on garde quand même cette idée de beauté du quai. Et donc, il a vraiment caché toute l'ossature métallique de la gare derrière un écrin de pierre et en s'inspirant de ce qui était construit autour de lui.
Tout à fait. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, dans Paris, mais je trouve que cet édifice retrace bien sûr des siècles d'histoire, on le disait, les soubresauts de l'histoire et les différents événements, mais je trouve que celui-là particulièrement, il a souffert de tout cela, et ça en fait justement un emblème, un bâtiment un peu à part.
Effectivement, alors c'est vrai que l'architecture est un véritable passeport, un merveilleux passeport pour découvrir l'histoire.
Oui.
Tout simplement, en vous promenant sur la place du Paty à Montargis, j'imagine que quand vous regardez la salle des fêtes ou quand vous regardez la médiathèque, vous n'avez pas exactement le même chapitre de l'histoire qui s'écrit.
Bien évidemment.
Et de même que quand vous vous promenez dans Montargis, vous pouvez croiser Gustave Eiffel sur la passerelle Victor Hugo, Napoléon à l'hôtel d'Urzy, et même remonter jusqu'à Catherine de Médicis, François Ier, ou
Complètement.
Et donc on peut remonter comme ça l'histoire grâce au bâtiment, grâce à ce qu'on a autour de nous. C'est vraiment un passeport pour l'histoire. Et le palais d'Orsay, je trouve, dépasse complètement son statut de simple objet architectural pour devenir le miroir du 19e siècle et le reflet de toutes les évolutions qui ont eu lieu au cours de ce 19e siècle. C'est-à-dire qu'il est construit pour être un ministère et il va devenir une gare. Donc le ministère devait voir défiler Napoléon, rêver de voir défiler les ambassadeurs sous ses yeux. Et la gare, c'est parce qu'on veut voir défiler des touristes dans Paris.
C'est incroyable.
Entre ces deux moments-là, il y a deux histoires totalement différentes, mais qui racontent tout le siècle.
C'est vrai.
Toutes les évolutions du siècle. Et effectivement, quand on veut savoir... En fait, ce que vous dites sur le Palais d'Orsay, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on veut savoir où on en est dans l'histoire politique de l'époque, on regarde le Palais d'Orsay et on voit où on en est, effectivement, avec une fois un empire, une fois une monarchie, une fois une révolution. Et à chaque fois, on peut, en regardant où en est le Palais d'Orsay à ce moment-là, ce qui se passe dans la société qui l'entoure.
C'est vrai, c'est une page d'histoire, je dirais un tome d'histoire à lui tout seul, une saga, la saga du Palais d'Orsay,
un petit peu ça. En plus, moi quand je l'ai découvert lors de précédentes recherches sur les incendies de la Commune, je me disais, pour que ce bâtiment reste pendant 27 ans en ruine, en plein cœur de Paris, il n'intéresse personne. Et en fait, en déroulant un peu la pelote, non seulement j'ai découvert cette histoire incroyable, de 30 ans de construction, 30 ans de vie, 27 ans de ruine, mais en plus j'ai découvert que contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est pas qu'il n'intéresse personne, c'est qu'il intéresse tout le monde. C'est-à-dire que depuis le premier empire et sa construction, il n'y a pas une année où on ne parle pas du Palais d'Orsay, que ce soit dans la presse, dans les débats parlementaires, il y a des ouvrages qui sont écrits dessus, et à chaque fois, on se dit, mais vont-ils arriver à en faire quelque chose? Et à chaque fois, ils se retrouvent dans des débats à n'en plus finir sur ce que doit être l'architecture, sur ce qu'elle doit représenter. Est-ce qu'elle doit représenter la grandeur de l'État, ou est-ce qu'elle doit représenter sa tempérance budgétaire?
Oui, oui, tout à fait,
voilà.
C'est ça.
Et donc, à chaque fois, et puis il y a les débats d'architectes, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Puis,
oui.
Voilà, c'est vraiment, on est à la croisée de l'histoire politique, de l'histoire de l'architecture et de la société.
Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous raconter une autre histoire, celle d'une petite pause musicale que nous allons faire, et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Hélène Lewandowski pour son ouvrage sur le Palais d'Orsay aux éditions Passé Composé. Vous savez, en lisant votre livre, j'ai trouvé que vous aviez cette façon passionnée. On sent que vous aimez ce bâtiment, cette histoire aussi du 19e siècle. Et j'ai fait un parallèle. Alors, bon, l'histoire est un peu différente, mais on disait le musée d'Orsay, il n'y a pas une année sans qu'on en parle. Et qu'est-ce qu'on en fait? On le détruit, il est incendié, on le reconstruit. Ça m'a fait penser un petit peu à la Tour Eiffel, où à la fin l'exposition, on ne savait pas ce qu'on allait faire de ce bâtiment, est-ce qu'on allait la détruire, est-ce qu'on allait la garder. Et je me suis dit que tous les édifices, les monuments un petit peu atypiques, un petit peu originaux, qui ont demandé une création, des idées, amènent toujours à de fortes réflexions et à une forme de passionnariat ambulant.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est sans doute plus vrai pour une capitale. Voilà, parce que on y construit des bâtiments peut-être plus emblématiques comme la Tour Eiffel.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il ne faut jamais oublier qu'en fait derrière l'histoire des bâtiments, il y a l'histoire des hommes.
Et oui.
Et que donc forcément, il y a des passions. Il y a, on le voit bien sur le Palais d'Orsay, il y a les, on va dire les modernistes, ceux qui veulent construire un Paris moderne avec une architecture de fer, avec entre autres la Tour Eiffel, avec une architecture qui s'adapte aux besoins de la société, à ses évolutions économiques. Et puis il y a ceux qui ne parlent que de patrimoine.
Oui.
Donc il faut vraiment trouver à chaque fois l'équilibre entre ces deux passions, et je suis sûre qu'aujourd'hui on prendrait certains dossiers du 21e siècle, on se retrouverait exactement confronté à la même chose.
Oui, oui, bah c'est certain. Regardez par exemple les controverses, alors bien sûr dans un tout autre genre, du musée Georges Pompidou, par exemple.
Et tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Et encore aujourd'hui, alors vous savez, quand la Tour Eiffel a été construite, ce qu'on disait beaucoup à l'époque, c'était le meilleur endroit pour voir la Tour Eiffel, c'est quand on est dedans, comme ça on ne la voit pas.
Oui, 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 bien sûr.
Eh bien, on peut dire exactement la même chose de la Tour Montparnasse ou effectivement du centre Beaubourg, on peut dire exactement la même chose.
Tout à fait.
Parce que il y a toujours, pour chaque construction comme ça qui envahissent l'espace quelque part, des polémiques, des controverses, et tant mieux quelque part.
Oui, c'est très bien. Mais tout à l'heure, vous parliez du musée du Louvre. Quand on pense, c'était un ancien château, mais alors ouvert à tous les vents, à tous les diables, et on l'a habité, et puis ça n'a pas été habité, et puis on l'a abandonné, et puis c'est aussi une sacrée histoire que cette histoire du musée du Louvre. Et c'est vrai que parallèlement, moi, je trouve que c'est un parallèle un petit peu, c'est un petit peu le jumeau du palais d'Orsay, ce musée du Louvre. Il y a des choses aussi un petit peu semblables, je dirais, dans le déroulement de l'idée de la construction, en tout cas de ce qu'en ont fait les hommes, en tout cas.
Bien voilà. Sûr. Et il y a quelque chose de très amusant d'ailleurs sur les Tuileries qui ont été incendiées, qui fermaient en fait le Louvre, qui fermaient ce fameux quadrilatère, qui le fermait complètement.
Oui.
Et en fait, quand les Tuileries ont été incendiées, immédiatement, vous avez ceux qui ont été incendiés donc par les communards en 1871.
Oui.
Immédiatement, vous avez ceux qui ont expliqué à quel point c'était une perte monstrueuse de patrimoine et que vraiment on regrettait, etc. Et puis vous avez tous ceux qui ont rappelé qu'aucune personne, qu'aucun dirigeant ne s'étant installé dedans n'avait aimé les Tuileries parce qu'elles étaient faites de briquet de broc. Elles avaient été modifiées. Napoléon avait demandé énormément de travaux à l'intérieur.
Ouais.
Il espérait qu'une chose, c'est de pouvoir aller vivre ailleurs tellement ce n'était pas confortable. Et donc en 1871, vous avez ceux qui crient au vandalisme d'avoir incendié ce magnifique bâtiment qui racontait l'histoire de France. Et puis vous avez ceux qui disaient mais ça n'a jamais été confortable pour personne. Et en plus, depuis qu'on a fermé le quadrilatère, on peut plus passer de la rive gauche à la rive droite. Donc surtout, ne le reconstruisons pas et faisons quelque chose qui permette aux habitants de vivre dans leur ville facilement. Vous voyez ?
Et donc,
aujourd'hui, il y a une association qui milite pour la reconstruction des Tuileries en expliquant que justement, c'est une perte de patrimoine.
Mais
on voit bien que quand on se penche sur le sentiment qu'ont eu les gens à l'époque, ce n'était pas tout à fait la même chose.
C'est vrai. Alors quand on se promène aujourd'hui dans ce musée d'Orsay, vous, l'historienne de l'architecture, de l'art et de l'histoire du 19e siècle, est-ce que vous ressentez ce poids de l'histoire, cette forme, avec bien sûr ces œuvres d'art, comment vous ressentez la chose ?
Alors forcément, quand on connaît l'histoire du bâtiment, je pense qu'on est beaucoup plus imprégné de tout ce passé, forcément.
Oui, bien sûr, bien
mais
sûr.
C'est vrai que je trouve, moi, très, très émouvant, toujours, de pouvoir regarder l'horloge que les hommes du 19e siècle
ont magnifique horloge, magnifique horloge, oui.
Mais oui, voilà. Et je trouve qu'en plus d'avoir réuni dans ce bâtiment qui est vraiment représentatif de l'architecture du 19e et des débats qu'elle a provoqué à l'époque.
Oui.
Je trouve évidemment ça, quand on est passionné du 19e, et il faut toujours se laisser imprégner, parce que souvent je me fais la remarque quand on se promène justement au Louvre dont vous parliez, c'est qu'on se promène dans le Louvre et on regarde les tableaux, mais on oublie souvent de lever les yeux.
C'est vrai.
Et de regarder autour de soi des lambris, un décor au plafond. Et c'est dommage parce que pouvoir rentrer dans un bâtiment et se laisser imprégner justement déjà parce qu'il le représente lui, permet souvent d'accéder plus facilement aux œuvres qu'il contient.
Alors pourquoi, en tant qu'historienne de l'architecture, vous auriez pu choisir une autre époque ? Pourquoi le 19e ? Parce que c'est riche, parce que beaucoup d'innovations, parce que les hommes ont été très créatifs. Pourquoi le 19e ?
Le 19e siècle est malheureusement pas très étudié, je trouve, par exemple quand on est à l'école.
Oui.
Alors c'est vrai qu'un siècle qui est coincé entre Napoléon et la Première Guerre mondiale, c'est pas facile d'exister au milieu.
C'est compliqué. Et puis avant la Révolution aussi. C'est
ça.
C'est compliqué, c'est sûr.
La Révolution, Napoléon, à la fin, il y a la Première Guerre mondiale.
Oui.
Donc entre les deux,
oui,
pas facile d'avoir de l'espace pour s'exprimer et pour exister. Et puis c'est un siècle compliqué, où il y a plusieurs changements de régime. Une fois on est sous l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, Second Empire, etc. Et puis la naissance de la Troisième République.
Et oui.
Mais je trouve justement que ce siècle est bouillonnant. Il bouillonne par ses idées. C'est un siècle excessivement optimiste, qui croit toujours qu'il va pouvoir faire mieux que la génération précédente, qui a une foi incroyable dans la science, dans la technologie, dans la technique, dans la médecine, et qui pense que le meilleur est à venir et qui croit en ça, et qui a été aussi un moment de réflexion, Et pour tout ça, je trouve, et pour l'optimisme qu'il présente, je trouve ça évidemment passionnant.
Oui, c'est sûr. Alors, quand, au regard de tout ça, vous devez trouver... Alors, il y a toujours du bon dans tous les siècles, dans toutes les époques, mais je sens chez vous ce côté romanesque, très enlevé par rapport à cette histoire du 19e siècle. Est-ce que l'historienne de l'architecture que vous êtes est un petit peu, comment dirais-je, trouve notre siècle un petit peu affadi de par la création de l'homme moi j'ai l'impression qu'on est dans une forme de stand-by un petit peu.
Je suis d'accord avec vous sur cette idée-là. Je trouve que, par exemple, l'architecture qu'on nous présente aujourd'hui, qui semble constamment faite de blocs de verre, comme si on avait inventé le verre hier matin.
Non, mais vous avez raison, c'est ça, oui, c'est vrai.
Oui, oui, on a l'impression, on nous présente des bâtiments en verre et en métal, tout, comme si on avait vraiment inventé la veille et qu'on était très heureux de ça. Et je trouve que du coup, effectivement, il n'y a peut-être pas beaucoup d'innovation.
Oui, oui, je suis d'accord.
De même que je trouve qu'on sacrifie un peu trop rapidement certains bâtiments anciens qui, une fois rénovés, une fois restaurés, pourraient complètement s'adapter à l'ère du temps. Et puis sur les idées, je trouve effectivement, vous parlez de stand-by, il m'arrive parfois d'être plus méchante que ça et de dire qu'on est un peu dans une ère de médiocrité, et je m'en excuse.
Non mais j'ai voulu être un petit peu soft, un petit peu, voilà. Mais alors, vous qui aimez justement la construction, l'idée de la construction, la création, je ne sais pas si vous êtes allé, mais si ça n'est pas le cas, il faut aller voir le château de Guénelon.
Mais oui, oui, oui. Alors
c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, ça.
Ouais. Oui, oui, c'est effectivement un projet que j'ai cette année, puisque l'histoire du Palais d'Orsay m'a pris quand même plus de deux ans.
J'imagine.
Là, je suis dans la phase où je m'éloigne un petit peu pour pouvoir laisser d'autres idées arriver et prendre place. Mmh. Et donc, pendant cette période-là, je pars effectivement à la découverte. Et ça sera le cas. Voilà.
Alors justement, puisque voilà, vous faites l'interface, vous parlez de vos projets. Justement, quels sont vos prochains projets d'écriture, sur quel bâtiment, toujours sur cette période du 19e, voilà, que veut faire Hélène Lewandowski de 2021?
Alors là, c'est la petite pause d'après-livre.
Ouais, ouais.
Parce que c'est vrai que je suis un peu boulimique, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, je n'ai vécu qu'avec le Palais d'Orsay. Ouais. La grande fatigue de mon entourage, je crois. Parce que c'était le Palais d'Orsay matin, midi et soir. Et que quand j'étais plongée dans les débats parlementaires, je pensais que ça pouvait intéresser tout le monde autour de moi. voilà, ouais. Donc là il y a la petite pause où il faut s'éloigner petit à petit du sujet. Mmh. Pour moi c'est vraiment un personnage à part entière. Ouais. Hein. Pour moi il avait de l'humain dans ce personnage. Ouais.
Est-ce que durant l'écriture vous y êtes allé vous balader?
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Mais d'ailleurs, je me souviens d'une de mes premières promenades au début de mes recherches sur le Palais d'Orsay. Le fait de se promener sur le quai, tout d'un coup, j'ai vu la place que prenaient les autres bâtiments autour, la place de la Concorde, et tout ça, ça permet de mieux comprendre comment il était perçu à l'époque. Mm-hmm. Comme beaucoup de bâtiments sont quand même restés, et ça m'a donné une nouvelle perspective. Donc il faut toujours se déplacer. Hein,
c'est vrai.
Il faut toujours aller sur place, quand on le peut, bien sûr.
Alors, mais est-ce que vous avez compris à ce moment-là ou à un autre moment pourquoi Napoléon Bonaparte avait voulu faire ce bâtiment à cette place-là?
Ah oui, vraiment. Oui. Vraiment. En imaginant les Tuileries qui étaient juste en face, c'était vraiment sous ses yeux. Mm-hmm. Donc vraiment, l'empereur qui voulait voir sa réussite, ses conquêtes défiler sous ses yeux, c'était évident que c'était là. Ça ne pouvait pas être ailleurs.
D'accord. Bien, en tout cas, c'est un livre passionnant, intéressant pour ceux qui aiment Paris ou ceux qui veulent découvrir les monuments. Il faut partir avec le livre sous le bras pour aller à la visite du Palais d'Orsay, à la rencontre de son histoire. Merci infiniment, le Palais d'Orsay aux éditions Passé Composé. C'était un vrai plaisir de bavarder avec vous. J'espère qu'on vous retrouvera pour l'histoire d'un autre bâtiment au 19e siècle. C'est vrai que c'est une période aussi que je trouve passionnante. En tout cas, vous nous l'avez fait vivre et revivre avec beaucoup de passion et notamment l'histoire de ce beau bâtiment. Merci Hélène Lewandowski, et j'espère
à
une prochaine fois.
Très sympathique.
Merci et à très bientôt, j'espère.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.